Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et de ses grands entretiens consacrés aujourd'hui à l'histoire biblique. Précisément, dans la Bible, le nom de Josué apparaît pour la première fois en tant que chef de guerre victorieux d'Amalek, l'ennemi intime de Dieu, Amalek, l'ennemi intime de Yahvé. Moïse dit à Josué « Choisis-toi des hommes et demain sors combattre ». Mais la victoire ne vient pas de Josué, mais du bâton que Moïse a déjà utilisé afin de libérer Israël du joug égyptien. Fidèle serviteur, Josué participe à l'ascension du mont Sinaï. Il garde aussi la tente du rendez-vous où se trouve l'arche d'alliance qui contient les tables de la loi. Surtout, à la mort du prophète Moïse, il est chargé de conquérir Jéricho et la terre de Canaan. Qui fut donc ce personnage biblique dont le nom évoque l'accomplissement de la promesse d'Abraham? C'est ce que je vous propose de voir avec Stéphane Ancel. Stéphane Ancel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien des religions, et professeur à la Paris School of Business. Vous êtes spécialiste donc de l'histoire du judaïsme. Quand on est journaliste et historien et qu'on s'intéresse à l'histoire, on est toujours surpris, surtout pour un contemporanéiste comme moi, de voir des historiens comme vous qui se penchent sur un sujet si lointain, qui pose à la fois des questions archéologiques, des questions aussi d'interprétation, parce que l'histoire biblique est extrêmement complexe. Comment en êtes-vous venu à ce sujet Josué?
C'est tout un cheminement qui remonte très loin, et si vous voulez je peux même commencer à raconter un petit peu ma vie parce que j'ai passé 10 ans dans une école confessionnelle où des gens bien intentionnés m'expliquaient ce qu'il fallait retenir de la Bible. D'ailleurs, ils m'ont jamais parlé de Josué puisque c'est un personnage, on aura l'occasion d'y revenir, assez méconnu, y compris pour les religieux. Et au terme de ce cursus scolaire, il me semblait que ce qu'on m'avait dit correspondait pas tout à fait à la réalité, au moins historique, parce que tous les magazines décrivaient la Bible comme plutôt une compilation d'histoires, parfois mythologiques. Je voyais des documentaires qui nous expliquaient que c'était pas tout à fait ce qui s'était passé réellement, etc. Et puis donc, j'ai fait ma recherche personnelle, en quelque sorte, ce qui avait donné lieu à un premier livre qui s'appelait « Histoire et religion, l'impossible dialogue », avec un point d'interrogation, puisque je n'étais pas encore fermé. Et j'avais répondu finalement à mes propres interrogations. J'étais à l'époque en doctorat, sous la direction de Mireille Das-Lebel. Et il me semblait important quand même d'écrire quelque chose sur ce rapport entre histoire et tradition. Et déjà dans ce livre, j'avais accordé une place assez importante à Josué, ou plus précisément à la prise de Jéricho. Puisque là, il y a quand même une grande difficulté à accorder histoire et religion, puisque l'archéologie nous dit depuis au moins les années 60-70 que la ville de Jéricho n'a pas été détruite, incendiée à l'époque au 13e, 12e siècle, même 11e siècle avant notre ère, que lorsque les Hébreux sont arrivés en terre de Canaan, nous disent les archéologues, Jéricho était déjà détruit depuis très longtemps, alors que dans la tradition biblique, les murailles de Jéricho qui s'écroulent miraculeusement, c'est évidemment une clé de voûte du livre de Josué et de toute la puissance de ce chef de guerre et de Dieu, bien sûr, qui l'appuie. Donc j'avais déjà, je m'étais un peu penché sur cette question-là, et puis ma thèse portait sur la conquête, sur le thème de la conquête et de sa légitimité juridique, puisque j'avais fait un peu d'histoire du droit aussi. Je me demandais si finalement les auteurs bibliques avaient réellement insisté sur cette prise de possession violente, incontestablement, et est-ce qu'ils en avaient fait un argument juridique? à l'appui de à l'appui de cette légitimité d'occupation du sol, ou alors pour contrecarrer d'éventuels autres prétendants sur cette terre. Et on s'aperçoit très très rapidement en lisant les sources bibliques et extra-bibliques aussi. Notamment Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie, on se rend compte que la conquête est extrêmement peu présente. Josué n'est pas du tout cité dans tout l'Ancien Testament, ce qui est quand même assez, assez étonnant vu la place centrale qu'il est censé occuper. Et donc, le résultat, je fais court, mais le résultat de ma thèse, c'était que les auteurs bibliques ont laissé de côté le thème de la conquête comme une sorte de... d'épisode mythologique fondateur, fondamental, comme la création du monde, qui s'est passé une fois et qui ne se passera plus jamais. Donc ils l'ont laissé de côté et ils ont privilégié plutôt, par exemple, l'achat de la grotte d'Hébron par Abraham, contre monnaie sonnante et trébuchante. Et ça, c'est extrêmement cité dans la Bible, dans le Talmud par la suite. Donc ils ont privilégié ça à la conquête. Alors qu'ils auraient pu réactiver le thème de la conquête lorsqu'il y a eu la fameuse guerre des Maccabées, ils auraient pu réactiver ce thème de la conquête à l'époque romaine où il y a eu quand même la Grande Guerre, puis encore Bar Corba après, et manifestement, eh bien, Josué n'a pas été, on n'a pas été le rechercher. Voilà.
Parce que c'est d'abord un chef de guerre et que se pose la question donc de la violence et du statut de la violence dans l'histoire d'Israël.
Oui, oui. Et j'ai continué du coup, après la thèse, à m'intéresser à cette question effectivement de la violence et du problème que ça pose manifestement à des auteurs bibliques anciens, comme ça pose aujourd'hui des problèmes aux lecteurs de la Bible qui trouvent peut-être ce livre extrêmement, ou ces livres extrêmement violents, mais il y a de tout déjà. Et donc Josué n'a pas été du tout, presque instrumentalisé par la suite. On l'a laissé un petit peu de côté, à mon sens, parce que ça posait des problèmes de lecture, notamment par la violence de ce qu'on appelle le Herem, de la mise à part pour Dieu de villes entières, où il faut passer par le fil de l'épée homme, femme, enfant, etc., tout voué à Dieu, c'est-à-dire tout détruire pour la sanctification de Dieu. Et ça, je pense que ça posait des vrais problèmes après de lecture, d'interprétation, et on le voit sous la plume notamment de Philon et de Flavius Joseph qui en atténue énormément la portée pour le présenter le mieux possible à des lecteurs plus contemporains et plus récents d'époque grecque et romaine. Et donc la biographie de Josué s'est quasiment imposée à moi, d'abord parce qu'il n'y en avait pas, pour les raisons peut-être évoquées précédemment, aucune biographie de Josué, du moins dans le monde francophone, et que par ailleurs, il y avait ce paradoxe-là de l'importance gigantesque de ce personnage et de son absence finalement assez injuste. Et je me suis demandé pourquoi. Et puis en relisant le livre qui porte son nom, livre biblique de Josué, je me suis demandé comment les auteurs bibliques avaient finalement façonné ce personnage. Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il prend corps au fur et à mesure de sa propre histoire? Et c'était une manière très 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 modestement de lui rendre un petit peu justice, parce que c'est pas le plus mauvais, quoi. C'est...
On connaît davantage Abraham, on connaît Moïse qui a été représenté des dizaines et des dizaines de fois au cinéma. En revanche, on ne connaît pas Josué, alors que pour le cinéma il y aurait pu y avoir cette image du conquérant qui aurait pu comme bien d'autres histoires guerrières de l'histoire, être représentées au cinéma.
À ma connaissance, il n'y a pas eu de film sur la conquête. Je peux me tromper, mais en tout cas, des grands péplums, je ne crois pas. Après, je pense que les réalisateurs...
Pourquoi ce décalage entre notre connaissance d'Abraham, notre connaissance de Moïse et Josué? C'est un personnage qui apparaît plus secondaire?
Alors, il faut effectivement remonter la généalogie, parce que des cinéastes, je pense, vivent dans l'ère du temps, et donc des personnages comme Moïse sont extrêmement représentés, vous l'avez dit, parce qu'on a beaucoup écrit, parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur eux dans le Talmud, dans le Coran, dans le Nouveau Testament, et parce que dans la Bible, ils sont extrêmement présents. Donc il y a toute une généalogie. Or, Josué, à part le livre qui porte son nom, mais cela dit, tous les personnages bibliques n'ont pas eu la chance d'avoir leur livre. Donc, c'est le sixième livre, celui qui arrive après le Pentateuque, donc le successeur de Moïse, Josué, qui a son livre qui porte son nom, eh bien, n'est plus mentionné par la suite, en tout cas dans les sources bibliques, on le trouve dans les sources extra-bibliques encore une fois, comme Philon et Joseph, mais ils étaient obligés, puisqu'il faisait un commentaire de l'ensemble de la Bible, donc si il faisait l'impasse sur Josué, ça se serait vu. Et dans le Talmud, effectivement, pour reprendre finalement dans l'esprit de l'Ancien Testament, eh bien, il est assez peu présenté. Il ne faut pas se laisser avoir par le nombre d'occurrences de Josué dans le Talmud, c'est qu'en fait, il est toujours, quasiment toujours associé à Moïse. Et on nous dit que autant Moïse c'était le soleil, autant Josué c'était la lune, c'était les deux qui se complétaient. Donc dans l'ombre de Moïse systématiquement, et plein d'histoires sont racontées sur Josué, mais comme fidèle disciple de Moïse, comme quelqu'un d'extrêmement fidèle, à tel point qu'il en est un peu benêt souvent dans certaines sources, mais assez rarement, voire très rarement, tout seul, comme si on ne voulait pas lui accorder une existence propre, alors que dans son livre, dans le livre de Josué, il a une existence. Et il vit et on le fait évoluer du début à la fin. C'est pas le même Josué au début du livre qui porte son nom, donc quand il va faire la conquête de Canaan, qu'à la fin où il a fait la conquête, où il a fait installer aussi les tribus, c'était pas simple, dans leur héritage, où les vieux, il peut mourir à ce moment-là, eh bien, il y a une vraie évolution du personnage.
Est-ce que vous montrez bien dans votre livre, et c'est un aspect passionnant de cet ouvrage, que terre et loi sont étroitement liées. Est-ce que on peut rattacher la loi à Moïse, les fameuses tables de la loi, mais il n'y a pas que les tables de la loi, il y a tout ce dialogue, on a tendance à l'oublier, surtout dans les pays chrétiens, on ne voit que les 10 commandements, or il y a tout un dialogue entre les prophètes et Dieu. Donc Moïse, l'homme de la loi, avec un L majuscule, et Josué, l'homme de la terre.
Ah ben c'est magnifique comme formule, effectivement, et il faut se souvenir que c'est un triptyque en fait, hein. C'est-à-dire que il y a d'abord Abraham, il y a la promesse faite à Abraham que ses descendants auront une terre, peupleront une terre, qu'ils y seront souverains, parce que Abraham pérégrine, hein, on le voit à travers les premiers livres bibliques, donc et Dieu d'ailleurs lui dit de parcourir le pays, et le fait de parcourir le pays est déjà c'est déjà un acte d'appropriation ou de pré-appropriation pour ses descendants. Parcourir à l'époque le pays, c'est vraiment s'y implanter, laisser sa marque. Mais on voit bien Abraham est un personnage tout à fait pacifique pour la simple raison, si j'ose dire, qu'il reconnaît la souveraineté des Cananéens. Donc il y a aucune friction, il y a pas de problème avec les Cananéens, qu'il l'accueille en tant que, il le dit lui-même, immigrant, en tant que résident étranger. En revanche, le problème se posera évidemment quand il faudra réclamer la souveraineté. Ça, c'est la première partie du triptyque. La deuxième, c'est bien sûr la sortie d'Égypte et le don de la Torah au pied du mont Sinaï, à l'ensemble du peuple, hommes et femmes assemblés, c'est toujours bien aussi de le rappeler. Et troisième partie du triptyque qu'on oublie aussi très souvent, il faut bien une terre où appliquer la loi. Je veux dire, c'est juridique jusqu'aujourd'hui, hein. Pas de quelques lois extra-territoriales, mais c'est compliqué. Donc, il faut être souverain sur une terre. C'est pas seulement une terre, mais il faut y être souverain pour pouvoir appliquer les lois. Et quand on relit les lois, notamment du Lévitique, on se rend compte que beaucoup de lois bibliques, eh bien, se rapportent à la terre. Voilà. Et pas seulement juste à une terre. C'est une terre où on est totalement souverain. C'est-à-dire que laisser des terres en jachère tous les 7 ans, etc., il faut pouvoir le faire. Il faut avoir cette maîtrise. Là, il faut avoir son gouvernement, il faut avoir des autorités qui en fixent les règles.
Et c'est là où votre ouvrage montre, il faut avoir une approche quasi géopolitique de la Terre. Et de manière très concrète, vous présentez à la fois cette conquête et l'héritage qu'il suscite, la distribution après des terres entre les différentes tribus d'Israël. On sort un peu d'une image un peu mythologique, légendaire de, de l'Ancien Testament, une image extrêmement concrète et même très réelle. J'entendais hier sur une grande radio nationale que les premiers espions dans l'histoire politique sont ceux de la Bible, ceux et Josué en est un, il va espionner la partie adverse pour pouvoir considérer la meilleure façon de prendre cette terre.
Oui, c'est un livre qui se veut historicisant. C'est pas très joli mais comme terme, mais c'est ça. C'est-à-dire que les auteurs bibliques du livre de Josué ont voulu le placer dans un cadre effectivement historique. Les noms des peuples existent pour... Les peuples cananéens, on les a pas tous identifiés, certes, mais pour ce qui est de l'Égypte, pour ce qui est des villes, on en a identifié un certain nombre. Tout ce qui est géographie, c'est bien attesté. Donc, il est effectivement placé dans un cadre complètement géopolitique, avec effectivement des conflits très stratégique, très rationnel. Il y a deux généraux, je crois, israéliens qui avaient écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Les guerres bibliques et donc qui montrait en stratège à quel point c'était tout à fait intéressant de relire notamment le livre de Josué. Cela dit, n'oublions jamais que les auteurs bibliques ont avant tout dans l'esprit l'idée d'une théologie, c'est-à-dire d'une explication de ce qui s'est passé, d'une explication de ce qui va se passer selon la volonté divine, selon un grand plan divin. Je pense qu'ils s'en fichent pas mal de la manière très très précise dont ça s'est passé. Ils veulent dire quelque chose, délivrer un message. On peut se demander d'ailleurs, par rapport aux espions, c'est décrit avec force détail, justement, les espions envoyés à Jéricho pour savoir l'état des forces en présence. Donc il y a un certain nombre de chapitres là-dessus. Et on se rend compte que finalement, la prise de Jéricho, elle est miraculeuse, puisque il fait le tour avec les fameuses, au son des fameuses trompettes, et les murs tombent d'eux-mêmes. Donc, vous avez un côté très, très, très rationnel, très stratégique, et puis après, quelque chose de totalement miraculeux, me semble-t-il. Entre les deux, je pense que ce qui a voulu être mis en avant, c'est l'histoire de Rahab. C'est cette aubergiste prostituée, enfin, aubergiste, plus prostituée certainement qu'aubergiste, mais qui recueille les espions. Elle, donc la femme cananéenne prostituée, ce qui fait trois quand même tard pour l'époque, elle va les accueillir, elle va les protéger parce qu'ils ont été découverts et que la population veut les tuer, et elle va les cacher, elle va donc prendre le risque de sa propre vie, d'abord en ne demandant rien, et puis une fois qu'ils sont sauvés, eh bien, elle leur demande la vie sauve pour elle et son clan. Et Josué va tenir parole quand il va prendre la ville. Ce clan-là de Rahab, la cananéenne, va être épargné, et on nous dit qu'elle va vivre aux côtés des Israélites indéfiniment. Une tradition, et ça c'est quand même très très osé, une tradition fait même de Rahab la future femme de Josué lui-même, du conquérant, qui aurait donc épousé une cananéenne. Ça va loin quand même dans le brouillage des frontières ethniques, identitaires, etc. Et donc je pense que les auteurs ont voulu insérer ce message-là, cette histoire-là de Rahab, qui fait écho d'ailleurs à l'histoire du général Achan. Une fois la ville prise, le butin devait être totalement voué à Dieu, donc on ne devait rien en prendre. Et ce général, eh bien, a commis cette faute de prendre un petit peu de butin pour lui. Évidemment, Dieu le sait, il envoie une catastrophe s'abattre sur l'armée, des milliers de morts, jusqu'à ce que finalement, eh bien, Achan se dénonce, et il va être lui et son clan passé par le fil de l'épée, selon cette procédure du Kherem, de l'extermination pour Dieu, qu'aurait dû subir Rahab, la prostituée, qui, elle, a été épargnée, comme les Israélites ont été épargnés. Et là, voilà, vous avez, dès les premiers chapitres de Josué, tout qui est brouillé. Ce n'est pas les bons Israélites qui font la conquête contre les méchants cananéens. C'est finalement ceux qui respecteront la volonté de Dieu, ceux qui iront dans ses pas, quels qu'ils soient finalement. israélites et israélites qui seront exterminés s'ils ne respectent pas la volonté divine, ou alors cananéens qui peuvent tout à fait être épargnés si finalement ils reconnaissent la puissance de Dieu.
Mmh. Alors précisément, je reviens un peu en arrière dans l'histoire et dans la relation avec Josué. Moïse intègre Josué quasiment non pas à son plan, mais à son parcours, à son cheminement. Et on voit Josué monter aussi, accompagner Moïse sur la montagne, même s'il n'a pas visiblement le privilège de voir les tables de la loi s'écrire. Josué, vraiment, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une sorte de prêtre, de pont entre la terre et le ciel, comme le fut Moïse, qui représentait le peuple d'Israël, de pontife, dans le sens antique du terme.
On lui a pas donné cette envergure. Dans les premiers passages où il est cité, finalement, c'est vraiment le fidèle.
Et il garde. Il garde l'arche d'alliance.
Comme fidèle, celui vraiment en qui on peut avoir confiance. Mais je pense que l'obsession, j'allais dire préoccupation, mais c'est encore plus fort, l'obsession pour les auteurs bibliques, c'est vraiment d'assurer le passage. Qui après Moïse, qui après cette figure incroyable, qui aurait pu clore quelque chose en laissant un énorme vide. Lui d'ailleurs qui, vous le savez bien, donc n'aura pas le privilège d'entrer en terre de Canaan parce qu'il a commis une faute, si minime soit-elle, de frapper le rocher, dit-on, alors qu'il aurait dû être plus doux pour en faire sortir de l'eau. Voilà, un petit excès de colère qui lui coûte l'accès, finalement, à la terre. Je pense d'ailleurs que c'est plus profond que ça parce que en fait aucun des Hébreux sortis d'Égypte ne connaîtra la joie d'entrer en Canaan, puisqu'on va attendre la nouvelle génération. Ils seront tous morts avant. On va attendre la nouvelle génération pour que justement si j'ose dire entre guillemets, se sent pur de l'esclavage, entre en Canaan avec des rites de purification, avec la circoncision, avec un certain nombre de choses, justement pour ne pas souiller le sol de tout ce qui a pu se passer dans le désert du Sinaï et tout ce qui a pu se passer avant encore en esclavage.
Ce qu'on ne se représente pas assez aussi, c'est que le peuple d'Israël, avant son entrée sur la terre de Canaan, est un peuple nomade. On a une image du désert qui est celle de la retraite, du temps de la prière, du retour sur soi, etc. Là, nous avons affaire à un peuple de nomades, comme il en existe peut-être encore aujourd'hui.
Nomade malgré lui, en plus.
Nomade malgré lui.
Parce que, et on le voit bien, dès qu'il sort, dès qu'il est libéré d'Égypte, il est totalement ingrat. Alors après, ça peut se comprendre aussi si on se met un petit peu dans la psychologie ou l'esprit, à la limite, de gens qui ont été libérés, certes, d'un esclavage très très dur, mais où au moins on savait où on allait. On n'allait pas loin, mais on savait où on allait mourir, le privilège de savoir où on va mourir. Là, c'est un Dieu extrêmement puissant qui se révèle à ce peuple, qu'il le libère, certes, mais pourquoi ? Pour le mettre dans le désert. Sans réel but, en tout cas pas déclaré. Il va errer quand même pendant 40 ans, ce qui n'est pas rien. Et on voit très très bien dès le début que le peuple, selon l'expression, murmure. Il murmure constamment contre Dieu. Il demande sans arrêt plus, il demande des preuves, il demande des choses très concrètes, d'où la manne qui tombe du ciel pour le nourrir, d'où les saveurs qu'il retrouve grâce à Aman, les saveurs de poulet, les saveurs de tout ce qu'ils avaient connu en Égypte. Et constamment, il murmure. Et ça, je trouve, si je peux me permettre ce parallèle avec des époques beaucoup plus contemporaines, c'est que le premier besoin d'un peuple n'est pas forcément la liberté. Le premier besoin d'un peuple est en général la sécurité. C'est-à-dire quand on libère un peuple en lui disant maintenant vous êtes libre, on s'en va, soyez content, c'est en général pas là où ça va le mieux. Il faut absolument assurer la sécurité. Il fallait que Dieu prenne en charge, s'occupe encore plus de ce peuple-là, où oui, nomade malgré lui, et Dieu ne fait que s'énerver dans le désert. Le veau d'or en est évidemment la quintessence, hein. Mais le veau d'or, c'est quoi? C'est vouloir une représentation beaucoup plus physique, matérielle de Dieu, qui était quand même assez évanescent, que personne n'entendait, ne voyait, seulement par l'entremise effectivement de la tente du rendez-vous et de Moïse. Et de Aaron, qui lui était effectivement le pontife, qui se chargeait de toute la représentation sacerdotale. Et donc le peuple voulait quelque chose de plus tangible. Je pense qu'on peut comprendre cet état d'esprit. Et je pense que Dieu a voulu du coup éliminer toute cette génération-là, qui n'était peut-être pas prête à entrer, prendre souverainement, disons, possession de Canaan, et a attendu une nouvelle génération du 109, avec donc Josué. Et dans cette obsession de la continuité, de la passation, et là vous avez des chapitres entiers très très fastidieux d'ailleurs, sur les rites de passation assurant la légitimité de Josué auprès des prêtres, auprès du peuple, auprès de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde l'investit pour qu'il n'y ait aucun problème par la suite de légitimité. C'est bien le successeur assuré, total, de Moïse, du vivant même de Moïse, pour pas qu'il y ait de contestation.
Alors, il y a énormément de symboles dans votre ouvrage que vous présentez. Il y en a un qui a retenu mon attention, c'est celui de la tente. Nous avons une image un peu triviale de la tente, même complètement triviale. Or, la tente est extrêmement importante. Elle est importante dans le Nouveau Testament, au moment de la transfiguration, quand le Christ est entouré de lumière avec, si mes souvenirs sont bons, Élie et Moïse à ses côtés, et Pierre qui lui dit: veux-tu que l'on dresse une tente pour Élie, Moïse et toi? C'est la tente où se trouve l'Arche d'Alliance. La tente est une préfiguration au fond du temple.
Moi j'ai tendance à dissocier les deux et à penser en fait que le temple est un grand paradoxe, en fait, que les Hébreux n'avaient pas forcément vocation, voire pas du tout, et le judaïsme non plus, à ériger un temple, et en emmurant, si je peux dire, si j'ose dire, Dieu entre quatre murs. Je pense que oui, il y avait ce côté nomadisme, il y avait ce côté aussi très libre de Dieu qui se déplace avec son peuple et qui est toujours derrière lui par l'Arche d'Alliance, qui contient quoi? Tient les tables de la loi. Donc là, il y a une puissance de la loi, de l'écrit. Et à un moment, de toute façon, on nous le dit bien, les Hébreux, une fois installés, ont voulu faire comme les autres peuples. Ils ont voulu avoir un roi et ils ont voulu avoir un temple. Et le temple, on le sait dans l'Antiquité, n'est pas simplement la matérialisation religieuse. C'est une institution politique, une institution économique. C'est une centralisation, à un moment donné, c'est une volonté de centralisation politique, économique et religieuse, comme donc le faisaient tous les voisins. Et je pense que c'est pour asseoir la dynastie davidique qu'on a construit ce temple, et qui a tout pour être peut-être l'ennemi intérieur du judaïsme. Mais ça, on le voit bien dès la destruction justement du temple du premier temple par Nabuchodonosor, lorsque il y a des critiques envers déjà la classe sacerdotale, envers les prêtres, envers tout le rituel, les sacrifices, lorsque les prophètes Jérémie notamment et Isaïe dénoncent cet excès de ritualisme, voilà, cette bigoterie finalement par l'abattage systématique des bêtes, alors que le comportement ne suit pas derrière le comportement quotidien, eh bien, il y a des phrases extrêmement dures contre le temple, des phrases extrêmement dures contre les prêtres, et on le voit de plus en plus s'affirmer au retour d'exil lorsque le temple est reconstruit, avec vraiment cette communauté temple, comme les auteurs l'appellent, communauté temple qui dirige, qui fixe les règles à travers et pour toute la diaspora. Mais à l'époque maccabéenne, on voit bien que les Esséniens ont voulu couper avec ce temple. On voit qu'il y a même eu des tentatives d'autres temples, comme Onias IV qui devait être grand prêtre à Jérusalem, et à la suite de discordes entre grandes familles, il a été mis en exil en Égypte. Et il fonde à Léontopolis, nous dit Flavius Joseph, un temple, le temple de Léontopolis, où il va sacrifier lui grand prêtre, et eh bien comme sacrifier à Dieu comme on le fait à Jérusalem. Donc temple concurrent finalement, tentative concurrente en Égypte. Et on voit donc une distanciation, des auteurs ont parlé de spiritualisation du temple, une distanciation en tout cas d'avec ce temple qui peut-être n'était pas effectivement dans l'idée première du judaïsme.
Je reviens sur le livre de Josué tout en restant sur cette idée de religieuse. Vous écrivez, je vous cite, « Le sentiment qui se dégage à la lecture de la conquête de Josué est celui d'une interruption continuelle des batailles par des rites, des cérémonies, des discrétions religieuses en tout genre, comme si volontairement il fallait atténuer ou même briser l'élan héroïque par définition humain, trop humain. » On est surpris aussi de voir... on n'est pas surpris quand on connaît un peu l'histoire religieuse, mais il y a une omniprésence de Yahvé. Yahvé est un dieu vengeur, jaloux, qui accepte certaines fautes, mais pas d'autres. Quelle est la relation de Josué avec Dieu?
Oui, c'est un dieu qui est pas simple parce que peut-être justement il est très 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 humanisé. On le représente finalement sous les traits de quelque chose de zélé, d'où le terme hébreu c'est kin'a, qui deviendra zélotos, qui devient du zèle et qui recouvre en fait un champ sémantique passionnel. C'est un dieu passionnel. Il demande la même chose, il demande le même zèle, la même passion à son peuple. Et effectivement, il peut s'énerver, il peut tuer, exterminer, il peut être convaincu de l'inverse. Josué a pu plaider aussi pour son peuple auprès de Dieu comme Moïse l'avait fait, comme Abraham l'avait fait.
Donc on négocie avec Dieu.
On peut négocier, mais ça c'est la grande force aussi du judaïsme, c'est-à-dire que vous avez cette fameuse phrase du Talmud, Dieu est au ciel et la Torah est sur terre. À partir du moment où Dieu a donné cette Torah aux hommes, finalement, eh bien, c'est aux hommes de l'interpréter, d'en prendre possession, et Dieu n'a plus grand-chose à voir dans toute cette affaire-là. C'était le rabbin Waknin qui disait que dans le Talmud, le mot qui revient le moins souvent, c'est Dieu. On parle quasiment jamais de Dieu, on parle de l'interprétation, du texte, de la loi, etc. Et on dit aussi que Dieu sourit quand il voit finalement son peuple batailler, discuter autour de sa propre loi qu'il a donnée. On nous dit que, alors c'est des histoires aussi talmudiques, que Moïse avait voulu savoir comment sa loi avait été comprise par la suite. Donc, il a demandé à Dieu de pouvoir redescendre de manière totalement anonyme sur Terre. Et il est donc placé dans une académie pré-talmudique d'un très grand, c'est de Rabbi Akiva, très très grand sage de son époque, premier siècle de notre ère. Et on nous dit que Moïse ne comprend rien. Mais absolument rien de ce que dit Rabbi Akiva. Du début à la fin, il est au fond et vraiment, il est complètement largué. Et à la fin, Rabbi Akiva dit, et voilà, tout ça, d'où nous le savons, eh bien, de la loi de Moïse. Moïse remonte au ciel, désabusé, il dit à Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et Dieu lui répond encore, eh bien, c'est la Torah des hommes que j'ai donnée aux hommes, et donc c'est à eux de l'interpréter de génération en génération. Et donc, c'est effectivement, pour revenir à la question de la violence, Dieu est violent, mais il faut bien comprendre, encore une fois, l'intention des auteurs, chaque goutte de sang dans la Bible doit être justifiée. C'est important, chaque goutte de sang a une signification. Il n'y a rien qui n'est fait sans un sens théologique. Et c'est pour ça que dans le livre de Josué, pour ceux qui iraient y chercher une grande conquête héroïque, épique, comme on peut en trouver dans les récits homériens, vont revenir assez déçus. Parce que, effectivement, tous les élans héroïques sont coupés. Il y a des rituels à n'en plus finir. Parce que la goutte de sang qui va être versée doit être totalement justifiée, ritualisée. Et finalement, vidée de son sens violent pour prendre un sens théologique. Il fallait en quelque sorte, et j'ai eu cette impression-là, il fallait que cette terre soit prise. Voilà, c'est pour résoudre l'équation de la promesse à Abraham, il fallait bien déposséder cette terre, l'enlever aux Cananéens et la prendre. Alors oui, il y a de là un peu de violence, certes, on passe très rapidement dessus. Pour l'épisode de Jéricho, peut-être qu'on a dans l'idée que la ville, qu'il y a des récits comme ça, de flots, de sang un peu partout et tout. Non, c'est quelques versets. Très, très pudique d'ailleurs. Voilà, on passe ça, toute la population, par le fil de l'épée. C'est quand même assez pudique pour des auteurs qui auraient voulu en faire quelque chose de totalement marquant pour les esprits. Non, ce qu'on retient pour Jéricho, c'est le miracle. Voilà. Si on est conforme à la volonté de Dieu, il nous accorde des miracles. Il y a un très très beau livre d'exégèse qui s'appelait le don d'une conquête. Voilà, c'est vraiment ça de Georges Ouzou, le don d'une conquête. Dieu a accordé cette conquête aux Hébreux.
Or, c'est le paradoxe, c'est-à-dire que Josué apparaît d'abord comme un chef de guerre. Je vous citer un historien dont j'ai oublié de noter le nom, je le cite, « S'il fallait porter un jugement définitif sur les qualités de Josué en tant que général, il faudrait le placer parmi les plus grands capitaines de l'histoire. Ses qualités de visionnaire en matière de stratégie apparaissent en permanence. » On en revient à ce que nous disions au début, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision quasi géopolitique avec ces espions qui sont envoyés, avec une connaissance de l'ennemi, ni plus ni moins.
Oui, oui.
Jéricho, par exemple, nous ne l'avons pas dit, Jéricho, c'est un point central, c'est un point extrêmement important sur cette terre.
Oui, oui, c'est pour ça que c'est assez, assez étonnant de relire le livre de Josué, parce qu'on se dit, on est dans l'histoire, il y a des lieux, il y a des situations, il y a des stratagèmes, c'est-à-dire faire semblant d'attaquer une ville, faire semblant de perdre pour faire sortir les soldats de la ville à nos trousses et à ce moment-là faire intervenir d'autres troupes fraîches pour s'emparer de la ville, c'est un stratagème qui est tout à fait contemporain. Donc il y a ça. Donc Josué se charge de la partie finalement humaine, sachant que derrière, les autres victoires et les plus belles victoires, eh bien, sont les victoires miraculeuses où Dieu intervient directement. Il y a les deux. Et quoi qu'il en soit, l'objectif du livre de Josué, c'est pas la conquête. Voilà. L'objectif du livre de Josué, c'est la seconde partie du livre, c'est la possession de la terre, sans laquelle possession, comme on dit aujourd'hui, faire rentrer dans un héritage, prendre possession d'un héritage, sans laquelle, cette partie, eh bien, la conquête ne vaut rien, sans laquelle les Israélites seront vomis, comme il est dit dans le livre de Josué, comme les Cananéens, comme n'importe quel possesseur. Il faut la faire vivre maintenant, cette terre. Et on s'aperçoit que c'est le moins facile de la mission de Josué.
Et donc, c'est une sorte d'organisateur.
Ah oui, chargé du cadastre, ça devient après très compliqué parce que apparemment les tribus se sont bien satisfaits de la conquête, puisqu'en plus elle était assez simple, relativement simple. En revanche, pour ce qui est de faire vivre la terre, de planter, de travailler le sol, etc., là ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Et on se rend compte que Josué est obligé de batailler avec chaque tribu. Il y a même une guerre fratricide qui est évitée, mais au dernier moment, avec deux tribus ennemies qui n'ont pas voulu passer le Jourdain, qui ont voulu rester sur les terres fertiles transjordaniennes. Et apparemment, il y a un malentendu. Ils auraient voulu ériger une sorte de temple. Alors évidemment, ils ne pouvaient pas avoir deux sanctuaires à Dieu. Et donc, Josué prend les troupes et puis il va pour passer le Jourdain, jusqu'à ce qu'il y ait soumission des deux tribus ennemies, reconnaissance totale de la souveraineté de Josué, etc. Donc on est vraiment à fleur de peau, on sent qu'il y a des tensions internes, qu'il y a des profondes divisions qui peuvent ressurgir, et elles ressurgiront historiquement très très souvent dans l'Ancien Testament. Mais oui, il est organisateur et ça l'épuise, et il le dit d'ailleurs, il le dit à Dieu, il le dit à son peuple, cette conquête ne sert à rien si vous n'occupez pas effectivement cette terre, si vous n'en prenez pas réellement possession. Et ça, c'est la deuxième grande partie du livre de Josué qui est très 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 souvent méconnue, qui est laissée de côté surtout par des j'allais dire des apprentis spécialistes de la Bible contemporain qui pensent que l'épisode de Josué, c'est que de la violence, que du sang partout. Non, il faut se faire un petit peu à l'idée de cadastre, à l'idée d'organisation territoriale, etc. C'est moins, c'est sûr que c'est moins glamour.
Nous évoquions au début le fait que Josué, on en parle très peu par rapport à Moïse et Abraham, alors que c'est lui qui accomplit la promesse d'Abraham. Comment expliquer ce décalage finalement, si c'est l'homme de la terre comme Moïse est l'homme de la loi? Si c'est l'homme de la terre, comment se fait-il qu'il ne soit pas davantage mis en avant, même par Israël aujourd'hui?
Oui, parce que jusqu'aujourd'hui, en Israël, c'est un personnage moins valorisé, incontestablement, que David, Salomon, Abraham, Moïse, Jérémie. Donc il y a quand même une dizaine de personnages, j'allais dire, avant lui. Mais c'est d'abord parce que dans la Bible, il est, encore une fois, assez peu présent, sauf dans son livre, que le Talmud ne l'a pas érigé non plus en personnage central, dans le christianisme non plus d'ailleurs, s'inspirant de l'exégèse biblique. Et donc, jusqu'aujourd'hui, effectivement, il est assez en retrait. Je pense que le livre de Josué a posé des problèmes de lecture assez rapidement, parce que, mine de rien, quand on dit, et même si on décrit pas ce qui s'est passé, quand on dit qu'une ville est vouée à Dieu, homme, femme, enfant, ça veut dire qu'il faut exterminer les enfants aussi. Et ça passe moins et très rapidement, c'est-à-dire que auprès d'un public grec et romain, ça devient difficile de dire à un moment donné, on a tué tous les enfants. Pourquoi ? Pour Dieu, en fait, on les a fait brûler, puisque c'était un holocauste, hein, pour le coup, c'est ça le vrai sens, un sacrifice réel à Dieu pour lui faire plaisir. Et là, ça passe moins.
Vous rejetez l'idée de génocide fondateur.
Oui, alors c'est des gens qui ont tenté depuis quelques dizaines d'années, mais comme l'avait fait déjà un peu à la Voltaire, on l'a fait au siècle des Lumières, une sorte de moralisation de la Bible. Donc on va faire un tri, on va éliminer effectivement tout ce qui est violence, et puis on va garder que les épisodes très très fraternels. Marcion l'avait fait, hein, enfin avait tenté de le faire. On le voit à quel prix, puisque finalement, si on enlève tous les épisodes plus ou moins violents, enfin il reste pas grand chose après de ce Dieu qui est censé être jaloux, très dur, très violent. Moraliser la Bible, bon, déjà c'est totalement anachronique. Bon, pour moi, c'est pas possible. En tant qu'historien, on prend tel quel, et puis on interprète, et puis on relit, on prend à bras le corps le texte, mais on moralise pas. Bon, mais oui, certains auteurs ont dit, mais c'est un génocide des Cananéens. Bon, j'en dis deux mots. L'idée est totalement grotesque. C'est des gens qui n'ont certainement pas lu le livre. Alors, malheureusement, ça a été popularisé par l'abbé Pierre à la fin de sa vie, au moment où il avait soutenu Garaudy, avait fait des déclarations sur Josué en disant « Je viens de découvrir, il avait, je ne sais plus quel âge, 70 ans, je viens de découvrir le livre de Josué, il m'est tombé des mains tellement c'est épouvantable, quelle horreur, c'est un génocide, etc. » Et ça, c'est très intéressant parce que, en fait...
L'abbé Pierre n'était pas historien.
C'est déjà, mais c'est vous dire à quel point le livre est pas lu ou peu lu dans le judaïsme. Et je peux vous assurer que vous prenez des talmudistes, vous prenez des religieux, etc. Ils auront pas lu ou pas bien lu le livre de Josué parce que il est mis un petit peu à l'écart. Je dirais pas à l'index, mais il est mis un petit peu à l'écart. On le lit très très peu aussi dans le christianisme, ce qui fait que à un moment donné vous avez un abbé qui découvre un texte biblique, le sixième livre de la Bible, à un âge totalement canonique. Ce qui est absurde, ce qui dénote une ancienne éducation religieuse totalement lacunaire. Et je plaide pour qu'on reprenne ce livre, qu'on le prenne à bras-le-corps pour en saisir toute la portée, tout le message, parce qu'il y a des vrais, vrais messages et qui sont dignes d'intérêt jusqu'aujourd'hui. Mais donc, pour terminer sur cette grotesque histoire de génocide, d'abord, à relire le livre, les Cananéens ne sont loin d'être exterminés, puisqu'on nous dit, dans les premiers versets du livre des Juges, qui suit le livre de Josué, que ça va être la punition, puisque les Israélites n'ont pas réussi à détruire les Cananéens, eh bien la punition, c'est qu'ils vivront à côté d'eux. Voilà. Et ce seront comme des épines dans leur flanc pour leur rappeler. Mais c'est très intéressant pour leur rappeler quoi ? Peut-être pour leur rappeler qui ils sont. On a toujours besoin de l'autre. Je ne fais pas de la psychanalyse de comptoir, mais on a besoin d'un autre pour se construire une identité. Donc, heureusement que les Cananéens étaient là, sont restés. Donc, le livre de Josué ne mentionne pas l'extermination totale des Cananéens, loin de là. Il y a quelques villes qui ont été effectivement détruites selon la Bible. Et puis, il faudra savoir, parce que si des gens comme Michel Onfray disent qu'il y a eu un génocide, ça veut dire qu'ils reconnaissent la réalité totale du livre de Josué du début à la fin. Je me demande pourquoi ils ne se convertissent pas et pourquoi ils ne sont pas totalement orthodoxes dans une yeshiva. Si on se distancie du livre et qu'on dit que c'est un livre de théologie, c'est un livre religieux et que c'est très loin d'une quelconque réalité historique, eh bien dans ce cas-là, on le prend comme un récit, encore une fois, homérique. Et je ne pense pas que Michel Onfray ait dit qu'il y a eu des génocides dans l'Iliade et l'Odyssée et que Troie a été une épouvantable horreur préfigurant Hitler. Voilà, je pense que vraiment, il faut faire la part des choses, faut respirer un petit peu, réinterpréter, reprendre ce texte, encore une fois, qui est vraiment étonnant, qui est très moral en fait. On n'a pas besoin de le moraliser, il est très moral en lui-même.
Eh bien, reprendre ce texte à bras-le-corps, c'est l'expression que vous avez utilisée, c'est ce que vous faites, Stéphane Ancel, et je vous remercie de l'avoir fait en tous les cas, et je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, donc Josué, premier conquérant de la Terre Sainte. On a envie de dire, en tous les cas, j'ai envie de dire que il fait partie de sorte de triptyque, donc Abraham, Moïse et Josué, ce grand oublié, et que j'invite nos auditeurs à découvrir donc un livre paru aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à très bientôt pour de nouveaux grands entretiens consacrés à d'autres périodes de l'histoire. Restez à l'écoute de Storia Voce. Merci beaucoup.